Un nouveau rendez-vous de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, et voilà maintenant que nous accueillons de plus en plus souvent dans notre rendez-vous hebdomadaire des hommes politiques. Et ce soir, je suis très heureux de pouvoir m'entretenir avec le maire d'Auxerre, qui est également président de la communauté de communes de l'Auxerrois et, depuis 2004, vice-président du conseil régional de Bourgogne. Guy Ferrez, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je suis très heureux de vous rencontrer autour d'un livre d'entretien que vous avez accordé à l'ancien rédacteur en chef de Lyon Républicaine, Pierre Julguet. Livre intitulé « Guy Ferrez, Auxerre, une passion » paru aux éditions de Bourgogne il y a de cela quelque temps, mais le livre reste néanmoins disponible. Alors Guy Ferrez, je vous le disais juste avant que nous enregistrions, 2011, voici 30 ans que François Mitterrand a été élu à présidence de la République, et c'était la première grande victoire de la gauche socialiste à l'élection présidentielle. Et puis pour vous, Guy Ferrez, qui avait adhéré en 81 au Parti Socialiste, vous voilà à la tête de la ville d'Auxerre depuis maintenant 10 ans.
Ça fait 10 ans, 30 ans François Mitterrand, 10 ans Guy Ferrez. Ma première réflexion, c'est de dire que le temps passe très vite, et je me rappelle bien de l'élection de François Mitterrand. J'étais en train de repeindre une porte dans la maison que j'occupais à l'époque, et à 20h, j'ai entendu sur Europe 1 très précisément l'élection de François Mitterrand, ce qui était évidemment pour nous un événement. Au-delà d'événements politiques, c'était d'ailleurs tout simplement un événement de nature quasi affective, bien évidemment. Et puis oui, 10 ans pour moi, mais là aussi le temps passe très vite. J'ai l'impression que c'était hier, et souvent on dit alors 30 ans ou 10 ans, c'est peut-être effectivement déjà le temps du bilan, en tout cas d'un premier bilan.
Guy Ferrez, en 1981, vous êtes un jeune homme de 28 ans. Alors on va un petit peu, si vous le permettez, parler un peu de vous, avant de bien évidemment parler aussi de votre conception de la vie municipale et de la vie politique en général. Vous me permettrez de rappeler que vous êtes un véritable Auxerrois, vous êtes né dans cette ville d'Auxerre en 1953. Vous êtes issu d'un milieu qu'on pourrait qualifier de milieu simple, avec un papa qui était ouvrier, enfin ouvrier, pour finir cadre. Il a bénéficié de ce que vous appelez dans votre livre d'entretien de l'ascenseur social, et vous aussi, vous en avez profité de l'ascenseur social.
Oui, vous avez raison, je suis un enfant d'Auxerre, 100%, et j'aime rappeler d'ailleurs que j'ai eu un parcours géographique dans la ville qui m'a conduit à habiter un certain nombre de quartiers. Je me suis né dans le centre-ville, j'ai habité les Rosoirs, j'ai habité Sainte-Geneviève, j'ai habité Saint-Siméon, et oui, je suis originaire d'un milieu simple, et mon père était ouvrier, il a fini petit cadre, et moi j'ai eu cette chance de pouvoir poursuivre des études, une forme de méritocratie. J'ai d'abord été boursier, et ensuite j'ai travaillé pour financer moi-même mes études. Ce que j'ai vécu, j'ai pu le vivre à mon époque. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens puissent le vivre de nouveau aujourd'hui, dans un contexte, un environnement économique, social particulièrement difficile.
Alors, votre patronyme, Ferrez, est d'origine espagnole.
C'est d'origine espagnole. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que mon grand-père était issu de l'assistance publique. Il était né d'ailleurs l'année de la Tour Eiffel. Et je l'ai très bien connu puisqu'il est décédé en 1969. Donc, vous voyez, 1889, l'automobile, l'avion n'existait pas. Et il était propulsé quasiment jusqu'à l'aube du 21e siècle. Et donc, d'origine espagnole. Mais comme mon grand-père était issu de l'assistance publique, très difficile de faire de recherches. Il semble, parce que j'ai une tante, ma marraine très exactement, qui a fait des recherches généalogiques, et on retrouve des Ferrez. On en trouve beaucoup dans la région de Madrid d'ailleurs, mais on en trouve aussi dans ce qu'étaient à l'époque les Pays-Bas et aujourd'hui la Belgique. Ça devait être du temps où cette région de l'Europe était possession espagnole. Elle continue ses recherches. Encore une fois, c'est très difficile en raison de l'origine de mon grand-père, assistance publique.
Et alors, ce qui est amusant dans le livre d'entretien que vous avez accordé à Pierre Juguet, c'est que vous parlez de votre maman avec beaucoup d'affection et de considération. Votre maman, elle est née dans une famille d'agriculteurs. Et alors, son nom de jeune fille, elle est une demoiselle Petiot, ce qui n'est pas sans rapport généalogique, lointain, avec le fameux docteur Petiot, lui-même né à Auxerre, rue
oui,
de Paris.
Et oui, puisque ma mère est née à Villevallier, donc dans la région de Joigny. Le docteur Petiot a exercé à Villers-sur-Furgal, et ma mère m'a toujours dit qu'entre le docteur Petiot et elle-même, ou la famille dont elle est issue, il y avait un lien de parenté. J'en connais pas exactement le degré, mais c'est-à-dire on a, sans le vouloir, les célébrités qu'on peut avoir ou que le destin vous assigne. J'ai envie de dire que j'ai eu, issu d'un milieu simple, je considère que j'ai eu une enfance, une adolescence heureuse, voire très heureuse. Je me souviens très bien du cœur de ville, là où je suis né. J'y suis resté jusqu'à l'âge de 5 ans. J'ai bien en mémoire ce que j'ai pu y vivre, comme j'ai bien en mémoire aussi le déménagement sur les Rozoirs, l'entrée à l'école maternelle des Rozoirs, ensuite le déménagement sur Sainte-Geneviève, qui à l'époque était perçu comme un quartier d'une modernité exemplaire. C'est la première fois qu'il y avait des tours sur Auxerre aussi haut, j'ai envie de dire. Et donc, il y avait un vrai plaisir à trouver à chaque fois. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un parcours résidentiel. Ça veut dire qu'au fond, on changeait de quartier, et chaque fois qu'on changeait de quartier, eh bien, c'était une amélioration du logement et de l'habitat. Et donc, ça rend bien, encore une fois, à ces années. Moi, je suis un enfant des 30 glorieuses, et donc, j'ai eu une vie jusqu'à l'adolescence tout à fait heureuse. Et ça marquait pour nous, en tout cas, un véritable progrès que ce cheminement dans le temps, dans les différents quartiers de la ville.
Alors Guy Ferrez, vous allez peut-être en rougir, mais vous avez été toujours un très bon élève, du primaire jusqu'à l'université à Dijon, un très bon élève.
Oui, j'ai été un bon élève. J'ai rapidement saisi la chance qui m'était offerte, d'abord de pouvoir apprendre, si vous voulez, donc dès l'école primaire. Et j'ai un souvenir d'ailleurs qui renvoie à l'école maternelle pour vous dire que j'ai toujours aimé l'école. Les études. À l'école maternelle des Rozoirs, je revois l'institutrice indiquant sur une pendule en carton une heure. Et elle demande à l'ensemble des élèves de maternelle, c'était la plus grande classe de maternelle, quelle heure était indiquée sur cette horloge de carton. Et il était indiqué 6 heures. Et j'avais répondu 6 heures. Et ça m'a bien marqué. C'est un souvenir, c'est une anecdote. Mais pour dire tout simplement que j'ai toujours pris plaisir aux études. Et alors, je tempère un petit peu parce que lorsque je suis entré dans mes études supérieures, à l'époque, nous n'avions pas de problème d'insertion professionnelle. Et il m'arrivait certaines années davantage de m'amuser avec mes amis masculins, féminins, plutôt que de travailler. Mais j'ai toujours suivi le cap et à un moment, j'ai décidé de terminer mes études. Donc oui, je suis plutôt heureux du parcours scolaire, universitaire que j'ai pu engager tout au long de ces années-là. Ouais.
Dans votre famille, on vous appelait l'intellectuel.
C'est vrai, il se trouve que j'étais issu donc d'une famille nombreuse à l'époque, nous étions 6 enfants, ce qui était assez courant d'ailleurs, et notamment dans les quartiers bien évidemment, et rapidement c'est comme ça que les choses se sont passées, j'en connais pas les causes, j'en mesure les effets aujourd'hui, j'étais plutôt lire dans la famille l'élément marquant ou remarqué si vous voulez, et comme très rapidement j'ai plongé avec avidité dans la lecture, je lisais tout ce qui me passait sous les yeux, y compris le dictionnaire, et donc dans la famille ou dans le voisinage aussi, avec les copains, les amis ou les familles, amis de mes parents, on m'appelait l'intellectuel, voilà, ce qui me convenait parfaitement.
Vous avez dit être, parce que vous l'êtes toujours, je suppose, enfin, vous avez sans doute un peu moins de temps, mais être un grand lecteur, vous êtes fasciné par la figure d'un grand intellectuel français, c'est Albert Camus.
Oui, c'est exact. Il y a deux figures, j'y repense parce que pendant les vacances, j'ai relu peut-être alors pour la 20e fois, celui que je considère, malgré ses errements, comme un des plus grands écrivains, c'est Céline. J'ai relu Le Voyage au bout de la nuit, je trouve ça toujours aussi fascinant. Un critique avait dit « Céline a fait cracher la langue française tout ce qu'elle pouvait pisser ». Je l'ai reconstaté de nouveau cet été. Puis Albert Camus parce que Albert Camus, c'est l'homme à la fois de l'engagement, du doute et de l'équilibre. Et je souvenir, à travers ce que j'ai lu, les ouvrages des uns des autres, ou leurs articles, leurs commentaires, peu importe, j'ai toujours d'un côté Jean-Paul Sartre, que j'ai toujours considéré comme très dogmatique, écrit de très bonnes choses aussi, et face à lui, Camus, l'homme du doute, l'homme à la fois de l'action, du doute, et qui place vraiment, je veux dire, l'homme au cœur de sa réflexion. Et c'est ce qui m'a toujours intéressé chez Camus, et puis cette trajectoire qui se termine aussi par un accident à quelques kilomètres d'ici, la puissance intellectuelle frappée par la mort bêtement, ça m'a toujours aussi fasciné.
Et on peut penser peut-être que Camus, comme vous, c'est un homme qui venait d'un milieu modeste et qui tout de même obtient le prix Nobel de littérature.
Absolument, il y a effectivement dans la vie personnelle d'Albert Camus, il y a quelqu'un issu d'un milieu très simple et qui très rapidement développe une... Le parallèle n'est pas exact entre Camus et moi, hein, bien évidemment, hein, Camus est bien meilleur que moi, ça va de soi. Mais effectivement, cette origine de milieu simple, cette volonté aussi de la connaissance, de l'intelligence, de l'attention portée aux autres, oui, c'est cela aussi Albert Camus, et c'est cela aussi... Je me reconnais un petit peu à mon niveau, à mon échelle, dans la trajectoire d'Albert Camus, mais je reste fasciné par lui.
Alors, Albert Camus a été en grande partie élevé par sa grand-mère, puisque sa mère ne pouvait presque pas s'exprimer. Enfin, c'était... Bon, il y avait une sorte de drame dans la famille de Camus. Et vous, Guy Ferrez, vous êtes marqué par la mort de votre grand-mère paternelle en 67. C'est votre premier... En 67, vous êtes un garçonnet de 14 ans. C'est votre premier contact avec la mort. Est-ce qu'on peut vous demander un commentaire sur cette disparition de la grand-mère ?
Oui, parce qu'il y avait, entre ma grand-mère et moi, il y avait un lien d'affection très fort, très puissant. Je passais, mes grands-parents habitaient sur Auxerre, mais chaque fois que je le pouvais, j'allais voir ma grand-mère, voire je dormais pendant les petites vacances scolaires, je dormais chez mes grands-parents. Il y avait une véritable affection entre ma grand-mère et moi. Et donc sa disparition, elle a été brutale pour moi, et ça a été, sur le plan affectif, le premier contact avec la mort. J'ai connu d'autres morts, mais ce que je considérais à l'époque comme étant une tragédie de nature affective, où il y avait quelque chose qui se brisait. Et donc c'était, le surgissement de la mort dans ce qu'elle a de plus prégnant pour un individu. Quand un individu aime quelqu'un et qu'il disparaît, c'est ça la vraie prise de conscience de la mort, en réalité, bien évidemment. Ouais. J'avais été profondément marqué, oui, c'est vrai.
Guy Ferrez, avez-vous reçu une éducation religieuse ?
Non, pas du tout. J'ai été baptisé parce que c'était plutôt dans l'air du temps, si vous voulez. Hein. J'ai donc été baptisé, j'ai pris des cours de catéchisme, et puis à peu près une année avant le passage à la communion solennelle, j'ai cessé de fréquenter le catéchisme. Je suis athée, je suis de ceux qui admettent parfaitement et sans aucune ambiguïté la cohabitation entre celui qui croit et celui qui ne croit pas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croit pas, qui n'y croyait pas, comme disait Aragon.
Thank you.
La première gymnopédie d'Éric Satie, interprétée au piano par Jean-Yves Thibaudet. Un choix de notre invité. Ce soir, effectivement, nous accueillons Guy Ferrez, maire d'Auxerre, et également vice-président du Conseil régional de Bourgogne depuis 2004. Il est ce soir l'invité de l'émission littéraire de votre radio locale. Alors, Guy Ferrez, entre 1968 et 1975, vous partez à l'aventure et en autostop, vous allez à la découverte des capitales de l'Europe.
Originaire d'un milieu simple, nous ne partions pas en vacances, par définition. Il se trouve qu'en 1968, j'ai eu l'opportunité d'aller dans une maison familiale en Savoie. Et puis, jeune, j'avais 15 ans à l'époque, j'étais avec un copain, avec un ami, et tout d'un coup, c'est l'appel du Larche qui nous a pris. Et nous avons décidé, ex abrupto, de manière complètement spontanée, d'aller tâter de l'autre côté de la frontière. Nous étions proches de la frontière italienne. Et nous voilà dans un grand périple qui nous a conduit jusqu'à Rome, Florence, Milan, Venise. Et nous avons travaillé un petit peu à Rome, n'ayant plus d'argent, arrivé à Rome. Et du coup, dans les années qui ont suivi, toujours avec des copains, des amis, nous avons sillonné l'ensemble de l'Europe. Et j'en ai gardé là aussi le meilleur souvenir, parce que sinon je n'aurais pas pu à ce moment-là voyager, et ça m'a donné d'ailleurs un goût du voyage que je n'ai jamais, jamais, jamais perdu.
Alors voyage effectivement sur le terrain, voyage dans les livres d'histoire. Il y a deux figures historiques, il y en a sans doute d'autres, mais en tout cas dans les entretiens avec Pierre Julguet, vous le dites, vous avez de l'admiration pour Napoléon et pour De Gaulle. Or, j'allais dire, ce sont tout de même deux grandes figures d'ambitieux et d'hommes de pouvoir. Or, la conquête du pouvoir, elle va être aussi le moteur de votre vie, dans le bon sens du terme.
Oui, vous avez raison. D'abord, je suis passionné d'histoire, donc sous tous ses aspects, qu'il s'agisse de l'histoire chronologique, de l'histoire de la biographie des grands hommes, de l'histoire économique, de l'histoire sociale, bref, de ce qui fait que le monde a été et est ce qu'il est aujourd'hui dans ses rapports de force. Et puis, j'ai toujours eu une passion comme ça pour les grands hommes, et il y a une fascination toujours pour celles et ceux qui, à un moment, sont apparus un peu comme des figures un peu mythiques, si vous voulez, donc Napoléon d'un côté, dont je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'aujourd'hui il serait perçu comme étant un grand homme, parce que Napoléon a été un homme de guerre, avec tous les drames que ça a comporté, mais dans l'imagerie, c'est resté un grand homme, et donc assez fasciné par cet homme jeune, brillant, etc., bien sûr. Et puis, Charles de Gaulle, d'abord parce que son engagement, je veux dire, dès 1940, son engagement dans le refus, c'est fascinant quand on est jeune, bien évidemment. Et puis ensuite, son retour au pouvoir, sa conception même de ce que doit être l'État dans un pays, l'autorité de l'État dans un pays, incarnée par un homme comme celui-ci, homme de pouvoir par définition comme Napoléon. Et comme on est tous peu ou prou, de manière rentrée ou extravertie, des hommes de pouvoir, c'est deux grandes figures qui m'ont profondément marqué.
Et De Gaulle, c'est aussi l'homme, bien sûr, c'est l'homme du 18 juin, c'est aussi un discours radiodiffusé, c'est aussi l'emphase, c'est le rythme ternaire, c'est aussi la rhétorique.
Vous avez raison, c'est aussi une dimension chez De Gaulle qui me fascine, son fameux rythme ternaire, et j'aime bien moi aussi, parfois, dans des discours, dans tes interventions, travailler avec un rythme ternaire. C'est aussi un sens de la rhétorique, de la parole, du discours, et je trouve qu'au-delà du discours, d'ailleurs, on dit souvent que la parole doit être prédictive, dire que la lumière soit et la lumière fut. Il y a une véritable force du discours politique. Quand le discours politique parle, on dirait aujourd'hui plus simplement que quand la commande politique s'exprime, ce qui est intéressant, c'est que c'est le mouvement qui est lancé, ensuite les choses se mettent en ordre et peuvent se réaliser. Ouais, il y a une fascination de la rhétorique gaullienne. Je suis un homme à la fois de l'oral, mais aussi un homme de l'écrit. Et j'adore écrire. Et pour l'anecdote aussi, dans le journal de la ville qui s'appelle Auxerre Magazine, c'est moi-même qui rédige mes éditos. Jamais je n'admets qu'on rédige les éditos à ma place. De même que je n'ai jamais, lorsque parfois assez rarement, parce que je préfère m'exprimer oralement en structurant les choses dans ma tête, la pensée dans ma tête, quand je dois avoir quelques discours écrits, je les rédige moi-même. Parce que je pars du principe que l'écriture structure la pensée. Et c'est le meilleur moyen, c'est-à-dire de mettre les choses en ordre de bataille dans sa tête. Et donc, lorsque j'aurai le temps, et si j'ai, non pas l'inspiration, c'est pas tant faire d'inspiration, mais oui, je suis un peu frustré de ne pas écrire suffisamment. Ça, je le connais volontiers.
Mais vous envisagez d'écrire votre vie à la mairie lorsque l'action municipale sera pour vous terminée et que peut-être vous serez retiré des affaires
Pourquoi pas, ou écrire sur d'autres thèmes, d'autres sujets. Je suis passionné aussi, alors évidemment, par l'histoire, bien évidemment. Je suis passionné aussi par tout ce qui a trait à la ville. Moi, je suis fasciné par ce qu'on appelle le fait ou le phénomène urbain. Donc, écrire, je pourrais écrire, dire sur tout et n'importe quoi. N'importe quoi n'étant pas négatif, ça veut dire que tout thème peut m'intéresser à un moment. Et en tout cas, il y a un plaisir physique et intellectuel à tenir un stylo et à écrire. Et jamais je n'utilise d'ailleurs un clavier pour écrire. Je trouve que ce n'est pas le meilleur moyen de structurer là. Il faut l'effort physique. Vous voyez, je disais tout à l'heure que Céline avait fait rendre à la langue tout ce qu'elle pouvait pisser. Eh bien, il faut pouvoir en quelque sorte sortir de soi physiquement pour bien l'écrire.
D'ailleurs, vous le dites dans le livre d'entretien, mais pour la lecture, vous dites « J'ai un plaisir physique à tourner les pages d'un livre, j'ai besoin de toucher, Guy Ferrez est insensuel. »
Oui, oui, vous avez raison.
Vous aimez l'odeur du papier,
il faut l'odeur du papier, il faut le bruit, il faut le volume, il faut la surface, il faut l'encre, il faut... Sinon, ce n'est pas de la lecture. Le premier acte de lecture, en réalité, c'est le fait de... On est tous pareils, au fond, quand on aime la lecture... Toucher un livre, en découvrir la couverture, en lire le résumé, la synthèse en dernière de couverture, toucher le papier, regarder. Il faut un plaisir physique, c'est pas quelque chose de neutre. La lecture, ça engage. Et donc, pour que ça engage, le mieux, c'est de faire preuve de sensualité à l'égard du livre qu'on s'apprête à lire.
Guy Ferrez, lisez-vous toujours Le Monde ?
Écoutez, je lis Le Monde depuis l'âge de 16 ans, très exactement. Donc, ça fait désormais 37 ans. Plus de 37 ans, ça fait, j'ai 58 ans, ça fait, depuis 42 ans je lis Le Monde. Et là aussi, lorsque je suis en voyage à l'étranger et que je ne trouve pas Le Monde, pendant quelques minutes je me sens un peu désemparé, parce que j'ai besoin de cette lecture quotidienne du monde. Aussi, c'est quasiment de l'addiction.
La mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores. Et qu'elle a des jolis yeux,
Bambino, Bambino.
Mais tu es trop jeune encore,
Bambino, Bambino.
Pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux. Elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs,
Bambino, Bambino.
Tu as l'air d'un chérubin.
Bambino, Bambino.
Va plutôt jouer au ballon,
Bambino, Bambino.
Comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes. Te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette. Ce n'est pas ça que dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie ne sont pas des jeux d'enfants. Et tu as toute la vie pour souffrir comme les grands. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux. Elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments,
Bambino, Bambino.
Ne le garde pas pour toi.
Bambino, Bambino.
Va le dire à ta maman.
Bambino, Bambino.
Les mamans, c'est fait pour ça. Elle a blotti dans l'ombre douce de ses bras. Pleure un bon coup et ton chagrin.
Radion. Radion.
Je pense que vous aurez reconnu Bambino, interprété par Dalida. La suite de Wagon Livre sur votre radio locale, nous l'accueillons ce mercredi soir devant les micros de Radion autour d'un livre d'entretien accordé à Pierre Julguet, livre paru aux éditions de Bourgogne et qui a pour titre « Auxerre, une passion ». Il s'agit du maire d'Auxerre, également vice-président du conseil régional de Bourgogne, Guy Ferrez. Alors en 1981, donc, victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle, et Guy Ferrez, c'est l'élection de François Mitterrand à la présidentielle qui vous voit adhérer au Parti Socialiste.
Donc j'étais sur le point d'un engagement politique à gauche, et depuis entre 1978-1981, on sentait plus jamais cette force montante qui était le Parti Socialiste et qui pouvait incarner quand même l'alternance possible. Et j'ai participé d'abord comme sympathisant à la campagne de François Mitterrand à Auxerre et dans Lyon, ensuite à la campagne des législatives dans le département, et bien naturellement j'ai adhéré au Parti Socialiste dans la foulée, voyant là une opportunité, si vous voulez, d'un engagement durable.
Alors, dès 1983, on vous rencontre au conseil municipal d'Auxerre. Vous êtes élu sur une liste de gauche. Et évidemment, à cette époque, la figure dominante pour le jeune homme que vous êtes, ambitieux, mais qui est un observateur et qui a déjà l'idée de conquête du pouvoir municipal, la figure majeure, incontournable à Auxerre, ville politiquement de centre droit, et donc peut-être en cela intéressante au niveau de la conquête, puisqu'on peut fédérer les gens du centre, l'homme incontournable, je vais enfin dire son nom, c'est Jean-Pierre Soisson.
Bien évidemment, en 1983, moi je suis un jeune élu, inexpérimenté, désireux, et donc étant entré dans la vie politique, y compris dans la vie politique active, puisque je suis jeune élu, 28 ans au conseil municipal d'Auxerre, et j'ai face à moi, je crois que je le dis dans le livre d'ailleurs, face à moi, Jean-Pierre Soisson, au mieux de sa forme, comme je l'ai écrit ou fait écrire en tout cas, ayant été ministre, appelé à redevenir, régnant, je veux dire, sur Auxerre et sur une large partie du département. Et donc, ma réflexion a été la suivante. J'avais effectivement cette ambition de conquête du pouvoir face à moi, Jean-Pierre Soisson. Et je me suis dit, soit face à un homme comme celui-ci, tu es capable, comment dire, d'organiser en quelque sorte ton parcours politique, ou alors il faut arrêter. Parce que Jean-Pierre Soisson, au mieux de sa forme, c'était un homme qui dominait, qui prédominait tous les autres, et donc forcément ça appelait une forme de dialectique. Jean-Pierre Soisson, d'une certaine manière, a été une bonne école pour moi. C'était un homme brillant, un homme de pouvoir, et on ne pouvait pas se permettre, pour lui succéder le cas échéant un jour, d'être médiocre. C'est comme ça que les choses se sont réglées dans ma tête.
Mais il n'aime pas être doublé, d'ailleurs. Il avait sans doute pressenti en vous un jeune homme brillant, capable de suivre son parcours, puisqu'il vous dit « Si tu veux me succéder un jour, tu te mets derrière moi ».
Vous avez raison, je revois bien cette scène. Il s'était passé quelque chose entre nous, une petite polémique à propos d'un dossier, je ne sais plus trop lequel d'ailleurs, et Jean-Pierre Soisson, nous débutions un conseil municipal, avait été un peu fâché de ma prise de position, et il m'avait dit « Si tu veux me succéder un jour, mets-toi derrière moi ». Et je lui avais dit effectivement, il faut d'abord être derrière toi, mais à un moment, il ne faut plus l'être, parce que vous savez qu'en politique, il n'y a pas d'héritier. Et je n'avais pas particulièrement, ou plutôt Jean-Pierre Soisson n'avait pas de raison particulière de faire en sorte que je devienne son successeur. C'est évident. Hein. Et donc, c'était un peu ce jeu, cette dialectique, encore une fois, entre un homme dont j'étais l'adjoint, et puis ce besoin à un moment de se démarquer. D'ailleurs, j'en veux pour preuve ou comme contre-exemple celles et ceux qui, à un moment, pensaient qu'ils pouvaient être l'héritier de Jean-Pierre Soisson. Au fond, aucun n'est devenu l'héritier. parce qu'ils sont tous restés derrière lui et ça ne leur a pas permis de conquérir le pouvoir.
Alors vous êtes resté derrière Soissons. Alors Jean-Pierre Soissons, au moment de l'ouverture, est appelé par c'est Michel Rocard, je crois, comme ministre d'ouverture dans le gouvernement Rocard. Alors il y a des socialistes qui quittent le PS, c'est le cas de votre camarade Jean-Paul Rousseau. Vous, comment avez-vous vécu cette ouverture du gouvernement socialiste à des personnalités de la société civile, enfin, et d'autres univers et horizons politiques?
Pour moi, les choses n'ont pas été compliquées. François Mitterrand avait fait campagne sur le thème de la France unie. Pour des raisons tactiques, bien évidemment. Bon. Il se trouve que, par tempérament, par évolution politique très rapidement au sein du parti socialiste, en tout cas dans ces années-là, j'étais déjà sur le registre d'un homme plutôt ouvert, ayant conscience que s'il faut rassembler son propre camp, il faut aussi, quand on aspire aux responsabilités, être capable d'élargir ce propre camp. Et l'ouverture prônée par François Mitterrand m'a plutôt semblé une opportunité. Donc très rapidement, j'ai soutenu la démarche d'entrée de Jean-Pierre Soissons au gouvernement, et bien naturellement, dans l'année qui a suivi, les discussions se sont engagées pour que l'ouverture qui existait au niveau national puisse se retrouver au niveau local. Ça s'est fait de manière simple, mais ça a été un vrai sujet de fracture et de conflit au sein du Parti Socialiste local.
Mais la liste d'ouverture à Auxerre a recueilli plus de 57% des suffrages, et vous vous retrouvez donc adjoint à l'urbanisme à la ville d'Auxerre. En 95, la liste Soissons est réélue, mais cette fois-ci sans Guy Ferrez, parce qu'en 95, c'est aussi une année d'élection présidentielle, et Jean-Pierre Soissons avait appelé à soutenir Jacques Chirac. Alors, cas de conscience quand même, quand on a été aux côtés de Jean-Pierre Soissons dans la vie municipale, on ne peut pas, quand on est un socialiste convaincu, continuer avec lui quand Jean-Pierre Soissons appelle à soutenir Jacques Chirac.
Bien sûr que non, et dès que je me rappelle bien, très bien de cette période, qui est une période difficile, bien évidemment, parce que dès que Jean-Pierre Soissons a appelé à voter Jacques Chirac, je revois parfaitement les choses, j'ai dit à mes amis politiques, nous ne pouvons pas continuer ainsi. Ce qui n'était pas évident, j'avais certains de mes amis politiques qui étaient également adjoints avec moi, qui auraient aimé continuer. Ce qui n'était pas possible, puisque Jean-Pierre Soissons faisait alliance avec le RPR, et à l'arrivée, il n'y aurait pas eu d'adjoint socialiste. Et puis politiquement, ce n'était plus tenable. Donc très rapidement, j'ai fait savoir que je ne souhaitais pas, bien évidemment, et heureusement, continuer. Et puis j'étais amené à conduire une liste dans des circonstances très difficiles, parce que du côté de la gauche, il y avait une méfiance à mon encontre, ce qui est tout à fait normal, si vous voulez. Et de l'autre côté, je venais de quitter Jean-Pierre Soissons, donc j'étais entre deux mondes, si vous voulez. Et les résultats de 1995, d'ailleurs, n'ont pas été de bons résultats. J'ai dû terminer au deuxième tour à l'étiage de la gauche de l'époque, qui était entre 36 et 38%, je crois. Voilà, c'était une période un peu difficile, un peu une période de vide. Ben, voilà, j'ai repris mon bâton me disant 95, c'est pas bon, et ben on verra pour 2001. Et j'avais pris l'engagement, si je n'avais pas gagné la mairie en 2001, j'aurais abandonné la vie élective, en tout cas. Ouais.
En 1998, Jean-Pierre Soissons se retrouve à la tête du conseil régional de Bourgogne, dont vous êtes actuellement vice-président, aux côtés de François Patria. Et à cette époque, au conseil régional de Bourgogne, on peut dire que Jean-Pierre Soissons a été contraint de gouverner la région avec le soutien du Front National.
Oui, c'est tout à fait cela. Et alors, il n'aime pas qu'on lui parle de cela. Il dénie cette alliance avec le Front National. Il y a bien eu alliance avec le Front National. Il est élu avec les voix du Front National. Il avait pris cet engagement, qui était une exigence du Front National pour le soutenir, de ne pas accroître les impôts de la région pendant toute sa présidence. Donc il y a bien eu à ce moment-là une alliance très, très objective entre le Front National et Jean-Pierre Soissons. Je crois qu'il y a eu 5 présidents de région qui ont été en collusion avec le Front National. Ça a été, je le dis, je crois, je l'écris aussi, c'était d'une certaine manière, et un éditorialiste l'avait écrit, ça avait quand même été une tache brune sur la carrière politique de Jean-Pierre Soissons.
Alors Soissons va quitter la mairie d'Auxerre parce qu'il est touché par la loi du cumul des mandats. Vous dites d'ailleurs que ça a été, enfin, vous dites que c'est une sottise.
Oui, je pense que c'était
sottise politique de Soissons ou sottise cette loi sur le cumul des mandats.
Non, sottise politique de Jean-Pierre Soissons, puisque 98, donc en raison de la nécessité de ne pas cumuler, il quitte la ville, il fait le choix de quitter la ville. Il aurait pu quitter un autre mandat, le mandat de député, il gardait la région, il venait d'être élu président de région. Et comme il n'avait jamais organisé, mais encore une fois, ce n'est pas choquant, sa succession, j'ai senti très vite, à travers le choix qui avait été fait, de prendre en quelque sorte le plus petit dénominateur commun, ce que j'appelle, et avec beaucoup d'affection, parce que j'aime beaucoup, un pape de transition qui était Jean Garneau. Et donc, à partir de là, la boîte de Pandore était ouverte. Et les successeurs potentiels, choissonnistes, j'ai envie de dire, ont été conduits à se déchirer, et à se déchirer profondément. Avec des manœuvres, avec des polémiques, mais j'ai toujours rendu dans cette affaire hommage à Jean-Louis Saunois, qui à un moment, je dis, a porté l'honneur de la droite républicaine, puisque il y avait vraiment des manœuvres qui visaient à le mettre de côté. Il y avait tout ceci était un peu petit bras, quoi, était un peu petit bras. Et forcément, le choix qui avait été fait du plus petit dénominateur commun était. On est arrivé aussi à la fin d'un cycle. Et donc, pour rebondir du côté de la droite républicaine à Auxerre, il fallait, à mon avis, un autre jeu. Et ils ont pris le jeu le plus mauvais. Et donc, dès 1998, j'ai considéré que la défaite des soissonnistes et de la droite républicaine d'Auxerre, en tout cas, la défaite était contenue dans le choix de 1998.
T'es toute nue sous ton poule, y a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou fausse l'affaire, mais c'est doux, joli môme. Ta violette et le violon qu'on violente et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. Et qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. Qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne qu'on est feuille monotone. T'es qu'une joie en aller, viens chez moi la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qu'est ma boule, joli môme.
Joli môme par Léo Ferré, un intermède choisi par notre invité. Vous êtes bien à bord de Wagon Livre où nous accueillons ce soir le maire d'Auxerre. Alors Guy Ferrez, le moment est enfin venu d'évoquer votre élection à la mairie d'Auxerre il y a maintenant 10 ans, en 2001.
L'élection a eu lieu en mars. Je l'ai dit à certains de mes amis au mois de novembre, je leur ai dit « je ne vois pas comment nous pourrions perdre ». Donc pour deux raisons, une raison... d'opportunité, c'est une droite qui se déchire à couteau tiré, qui étale ses divisions dans la presse, qui sort les dagues, qui ne se fait absolument aucun cadeau, mêlé justement à cette fin de cycle. Parce que, en gros, Jean-Pierre Soisson était maire quasiment pendant 30 ans, 28 ans très exactement, je crois, et nous étions arrivés au bout du système. Et comme ce système, la fin de ce système était accrue en quelque sorte par ces déchirements, je ne vois pas dans quelles conditions, à ce moment-là, je pouvais perdre. C'était peut-être de l'optimisme béat ou de la prétention, mais j'étais à peu près certain de ce qui devait arriver au mois de mars et qui a été vérifié, bien évidemment.
Alors en 2001, vous êtes élu donc au second tour, après une triangulaire. Il faut dire que Bernard Revest, qui conduisait une liste apolitique, s'est maintenu au deuxième tour, ainsi que le candidat de la droite, RPR-UDF, donc Jean-Louis Hussonnois. Et finalement, Bernard Revest, vous ne saisissez pas très bien. Enfin, il a cru à un moment qu'il était le poulain de Jean-Pierre Soisson. Il s'est senti un petit peu l'héritier de Jean-Pierre Soisson, ce que finalement, il n'a jamais été.
Non, mais plusieurs se sont pensés les héritiers. Et partant de ce principe, qui d'ailleurs, je trouve, en termes politiques, qui est une méconnaissance de la réalité. On peut désigner un héritier, ou on peut se considérer héritier de tel ou tel homme de pouvoir, sauf que le principe de réalité, il n'est pas là. Ce n'est pas tel ou tel qui choisit, sauf exception. Ce sont encore une fois les citoyens, les électeurs qui décident. Et je crois que ça avait été perdu de vue. Il y avait une forme, c'est-à-dire, de dynastie en quelque sorte qui voulait se mettre en place. Ben malheureusement, c'est pas comme ça que les choses se passent, et c'est vrai qu'encore une fois, il n'y a jamais d'héritier. Et on peut désigner tel ou tel héritier si l'héritier n'est pas en situation, avec le besoin, avec le désir, avec la demande qui est celle des citoyens. On peut toujours être héritier, c'est pas pour autant qu'on hérite.
En se maintenant au deuxième tour de l'élection municipale en 2001, est-ce que Bernard Revest a fait perdre la droite ? Ou est-ce que les électeurs de Revest, si Bernard Revest ne s'était pas maintenu, est-ce que ces électeurs de Revest se seraient portés sur le nom de Guy Ferrez ?
Une bonne partie des électeurs de Bernard Revest se seraient reportés sur moi.
C'est-à-dire quand même des électeurs du centre ?
Une bonne partie des électeurs du centre. Parce que, plus Bernard Revest avait fait davantage campagne contre Jean-Louis Hussonnois que contre moi-même, bien évidemment. Et donc, autant quand on conduit une liste, quand on est en responsabilité, on doit savoir parfois faire des retours que l'on comprend à ce moment-là pour des raisons tactiques et de moment. Quand il s'agit de militants ou d'électeurs, les gens ne comprennent pas ça. Et donc, avoir fait campagne contre Jean-Louis, s'être réclamé en quelque sorte du centre, si c'était politique, ça voulait dire ça, forcément une partie de l'électorat de Bernard Revest se serait reporté sur la liste que je conduisais. Et donc c'est pour ça que j'ai considéré aussi, au soir du premier tour, que Bernard Revest se maintienne ou ne se maintienne pas, j'ai considéré au soir du premier tour que j'avais gagné.
Et alors lorsque vous vous rencontrez dans son cabinet d'avocat rue Marcelin Berthelot, est-ce que, la question est posée par Pierre Julguet, est-ce que Bernard Revest revendique un certain nombre de postes lorsque vous serez élu maire, puisqu'il n'en doute pas ?
Il n'en doute pas. Bernard Revest me dit la chose suivante. Il me dit, je vais me retirer. Si tu fais ce que tu veux. Et il me dit, d'ailleurs je n'ai pas tout compris à ce moment-là, il me dit, je viens t'aider à devenir maire d'Auxerre, il faut que tu me aides à devenir président de la communauté. Donc moi je n'ai pas pris d'engagement à cet égard. C'eût été ridicule de ma part. Je sors du cabinet de Bernard Revest, je vais à ma permanence électorale, et là j'apprends, je venais de sortir de chez Bernard Revest, et là j'apprends que Bernard Revest finalement se maintient. Et il se maintient parce que, c'est ce qu'on m'a dit, je le crois volontiers, que les candidats qu'il avait sur sa liste, celles et ceux qu'il avait mobilisés, ne voulaient pas qu'il se désiste, parce qu'il avait le sentiment d'être trahi. Et donc en une demi-heure ou une heure, si vous voulez, les positions de Bernard Revest ont complètement changé. Et donc nous nous sommes trouvés, oui, à trois listes, au soir à la veille du second tour.
Mais vous avez une bonne mémoire, puisque effectivement vous l'avez coincé, Bernard Revest, un petit peu plus tard, lors d'une séance apparemment mémorable du conseil municipal, où vous avez rappelé en public que Bernard Revest avait revendiqué en quelque sorte la présidence de la communauté de communes de l'Auxerrois, et là vous l'avez fait blêmir.
C'est exact, parce que Bernard Revest, lorsqu'il était...
Alors que Bernard Revest, pardonnez-moi Guy Ferrez, Bernard Revest critiquait la communauté de communes de l'Auxerrois. Je crois qu'il était dans une position qui était intellectuellement un peu étrange.
Bernard Revest prétendait que si la communauté, qui était la communauté de communes à l'époque, n'était pas devenue communauté d'agglomération, c'était en quelque sorte de ma faute, oubliant que j'étais minoritaire à la communauté, mais peu importe, allez dire, c'est la polémique classique de l'opposition. Mais se posant en permanence en donneur de leçons, et considérant que je n'avais pas de leçons à recevoir, ça ne me gêne pas de recevoir des leçons, mais là je considérais que c'était outrancier, que c'était surtout, ce n'était ni justifié ni fondé. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu le rappeler ce moment qui l'a conduit, qui l'a désarçonné. Je revois bien cette scène, je revois comme si c'était hier, pour qu'une fois pour toutes, il cesse de se poser en conseiller mal avisé et en donneur d'ordre en quelque sorte.
On peut revenir sur l'épisode Safia Otokoré.
Bien sûr.
En 2001, vous faites appel à l'épouse donc, d'un ancien footballeur de la GIA, donc Safia Otokoré, à qui d'ailleurs le Parti Socialiste sur le plan national avait confié aussi des missions importantes. Elle est au sein de votre équipe en tant qu'adjointe à la vie des quartiers. Donc vous jouez un petit peu la diversité, vous jouez l'image. Et finalement, vous vous rendez compte que ça ne marche pas du tout, qu'elle n'est pas à la hauteur. Vous avez même dit qu'elle n'avait pas de talent. Alors, Guy Ferenc, comme ça, il peut être très sévère quand il est meneur d'hommes et de femmes.
Oui, et de femmes. Oui, bien sûr, parce que lorsqu'on a en charge des responsabilités, notamment sur un territoire avec des femmes et des hommes qui vivent, qui attendent qu'on puisse répondre à leurs besoins, à leurs demandes, à cette nécessité de vivre correctement et bien ensemble, tout simplement, eh bien, on doit être à l'auteur de la tâche. Et lorsqu'on exerce des responsabilités, y compris quand on est adjoint, on assume ou n'assume pas les responsabilités qui sont confiées. J'ai considéré que Safia Otokoré remplissait mal ses responsabilités et mettait même à mal le maître mot de la politique que je voulais conduire, qui était l'apaisement et la réconciliation. Et donc, dans les quartiers, ça ne se passait pas toujours très bien. Les relations avec les associations se passaient plutôt mal. Elle ne travaillait pas ou travaillait trop peu. Elle était brouillon. Et donc, elle risquait à un moment de mettre à mal, tout simplement, cette volonté et cette mise en place politique d'une volonté de bonne vie dans les quartiers de travail, notamment en direction des jeunes. Donc, je l'ai sanctionné, ce qui n'a pas été facile, d'ailleurs, parce que je considère aujourd'hui encore que j'aurais pu jouer la politique de l'autruche, compte tenu de ses responsabilités nationales, bien sûr, mais j'ai considéré aussi que l'intérêt d'Auxerre devait primer, et donc je considère que j'ai fait preuve de courage, encore une fois, ce n'était pas du tout évident.
Y compris aussi preuve de courage à l'égard du Parti Socialiste, puisque vous avez téléphoné au premier secrétaire, c'était François Hollande, pour lui expliquer que qu'elle n'était pas au niveau, en fait.
J'étais même allé voir François Hollande. Je lui avais demandé un rendez-vous, parce que, par correction, elle était secrétaire nationale du Parti Socialiste en charge des sports, je crois. Et donc, par correction, j'étais allé voir François Hollande, lui disant pourquoi. Je ne suis pas allé lui demander si je pouvais ou non me séparer. Je suis allé l'informer du fait que j'allais me séparer de Safia Otokoré en lui expliquant pourquoi. Je trouvais que c'était affaire de correction. Voilà comment les choses se sont passées. Et je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Je crois que c'était l'intérêt d'Auxerre.
Alors, on est bientôt au terme de cet entretien. Je rappelle donc le livre d'entretien que vous avez accordé au journaliste Pierre Julguet, Guy Ferenc, Auxerre, une passion, paru aux éditions de Bourgogne, dans la collection Libre Parole. Vous avez été réélu maire dès le premier tour, en 2008, avec 53% des voix. Et vous dites dans ce livre d'entretien que vous ne voyez pas de véritable successeur. Alors, vous êtes vous-même votre propre successeur pour encore un mandat ?
J'ai coutume, parlant de manière très simple, je dis souvent, on peut contester tel ou tel des choix que j'ai faits pour la ville. Il y a une chose qu'on ne peut pas mettre en doute, c'est le fait que j'ai travaillé, beaucoup travaillé, et de mon point de vue, pas mal travaillé. Donc je dis d'une manière un peu alerte, j'ai commencé le boulot, je le poursuis, je ne l'ai pas terminé, et donc je demande aux Auxerrois en 2014, s'ils le souhaitent en tout cas, qu'ils me laissent finir le travail que j'ai commencé, le boulot que j'entrepris sur Auxerre.
Notamment l'aménagement des quais.
Notamment l'aménagement des quais, donc dont les travaux vont débuter d'ailleurs l'an prochain.
Guy Ferenc, en tout cas, merci à vous de nous avoir accordé un peu de temps, de nous avoir reçus dans votre bureau, ici à la mairie d'Auxerre. Et je rappelle donc, Guy Ferenc, Auxerre, une passion, entretien avec Pierre Julguet, collection Libre Parole, et c'est aux éditions de Bourgogne. Bonsoir Guy Ferenc et merci.
Bonsoir, c'est moi qui vous remercie.
Quelques rendez-vous culturels dans les jours à venir avant de nous séparer. Tout d'abord, demain jeudi 20 octobre à 18h30, un rendez-vous de lecture est proposé par l'Association des Amis de la Bibliothèque Municipale d'Auxerre. Un moment privilégié pour rencontrer d'autres lecteurs, pour échanger des coups de cœur, des conseils de lecture ou tout simplement pour découvrir l'actualité littéraire. C'est demain à 18h30 à la bibliothèque Jacques Lacarrière. L'entrée, bien évidemment, est gratuite. Autre rendez-vous littéraire, vendredi 21 octobre prochain à partir de 18h30. Dans le cadre de sa résidence d'écriture, Nicole Balvet-Ayot invite le public à une lecture. Au cours de cette soirée littéraire dans les salons de la Maison Jules Roy, eh bien, elle lira quelques-unes des nouvelles extraites de son livre « Fenêtre sur vie ». Nicole Balvet-Ayot est née à Auxerre, c'est une bourguignonne d'origine qui en 1969 a décidé d'aller s'installer comme professeure d'anglais avec son mari dans une région du Canada, du Québec, qui s'appelle l'Outaouais. Et donc, Nicole Balvet-Ayot, eh bien, revient à ses racines, à la Maison Jules Roy. Elle présentera d'ailleurs un texte inspiré par le pont de Guyon. Guyon, petit village à quelques kilomètres d'Avallon et qui est le berceau de sa famille. Et ce texte, écrit à Vézelay en 2009, eh bien, elle le présentera, le commentera, elle le lira également par extrait au public de cette soirée littéraire. Les textes de Nicole Balvet-Ayot ont été mis en scène et présentés plusieurs fois au public québécois. Sachez d'ailleurs que le mercredi 2 novembre prochain à 21h, elle sera notre invitée dans Wagon Livre et nous aurons l'occasion justement de lui demander de développer les thèmes très nombreux et thèmes assez réguliers qu'elle développe dans ses écrits, notamment la famille, l'amour, la sexualité, l'amitié, l'aventure, l'exil, le souvenir ou la perte. Ce sera le 2 novembre prochain dans Wagon Livre, mais donc ne manquez pas cette soirée littéraire à la Maison Jules Roy. C'est vendredi 21 octobre à partir de 18h30 avec Nicole Balvet-Ayot. Et puis enfin, ne manquez pas le samedi 22 octobre prochain à 15h30, c'est à la bibliothèque Jacques Lacarrière, à l'auditorium, une conférence qui sera donnée par François Poplin sur le thème de la petite oie ou l'histoire d'une expression dans la littérature à travers les siècles. François Poplin est directeur honoraire de l'UMR d'archéozoologie et d'anthropologie au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Pour ma part, je vous retrouve mercredi prochain, 26 octobre à partir de 21h. Nous vous proposerons une émission enregistrée en public à la salle des fêtes d'Aquin, enregistrée le 2 octobre dernier avec le photographe Philippe Gabel et l'anthropologue et maître de conférence Octave de Barry autour d'un livre de photos et de textes sur les vides-greniers. Ce sera l'occasion de réfléchir à cette théâtralité au cours de laquelle les objets font le trottoir, notamment dans un grand nombre de villages de Lyon. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro de Wagon Livre.